Allez, on ouvre ensemble la parole de Dieu, l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Vous l'avez ? Voilà, il s'affiche. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Nous savons, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, et surtout de les vaincre. Amen. Vous avez vu dans le défilé, le stade olympique, la France s'est présentée en faisant un V de victoire. Il leur faut les victoires maintenant. Mais nous avons l'assurance de la victoire. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes dans le camp du vainqueur. Amen. Néanmoins, eh bien, il faudra combattre. Et dans ce combat, eh bien, il est question de résister et tenir ferme contre les ruses du diable. L'apôtre Pierre dit ceci dans sa première lettre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Son but, c'est de dévorer. Hein ? C'est de faire mourir, se faire périr. Il est dit au verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc ici, Pierre dit que tous ceux qui appartiennent à Christ sont l'objet des attaques de l'adversaire. Amen. En vous convertissant, si vous pensiez en avoir fini avec les contrariétés, avec les épreuves, les difficultés dans la vie, vous êtes trompé. Si quelqu'un vous a dit en prédication ou en témoignage, viens à Jésus, tu n'auras plus de problème, il vous a menti. L'Écriture est là. Alors l'apôtre Jacques proclame que lorsque notre volonté est soumise à Dieu, eh bien nous pouvons résister au diable et il s'enfuira. Il est dit, Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, donc il y a une autre part, et il fuira loin de vous. » En tout cas, dans ces passages, il est question de résistance. Résister. Paul le dit, Jacques le dit, Pierre le dit aussi. Il est aussi question de fermeté, une foi ferme. D'ailleurs, tenir ferme est répété trois fois chapitre 6 d'Éphésiens, tout simplement trois fois. Enfin, il est question de victoire. Il fuira. Si j'applique mon cœur à suivre l'enseignement qui m'est donné, si j'obéis finalement à la parole de Dieu, l'adversaire va fuir. Amen. Nous allons triompher du malin, comme le dit Jacques, chapitre 4, verset 7, également ce que nous avons lu au verset 13. Nous allons le vaincre. Il va fuir. C'est lui qui va décamper, ce n'est pas nous. Mais néanmoins, la vie du disciple de Jésus n'est pas une vie de pratique religieuse, bien correcte, bien réglée, bien tranquille. Parce que le diable n'est pas effrayé justement par la religion. Non. Il est même content quand il y a des gens religieux, qu'il y a de la religion, parce qu'il dit, moi je peux me cacher là-dedans, on ne verra pas. peut s'infiltrer. Eh oui. Alors la foi de l'évangile, bien sûr que c'est un combat. Et l'apôtre Paul écrit qu'il a combattu contre des bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Des commentateurs disent qu'il s'agit probablement de gens emmenés par Démétrius, hein, qui fabriquait des tentes pour la déesse d'Éphèse. Des gens donc, qui étaient inspirés, animés, comme il est dit, par des esprits méchants, comme des bêtes, hein, qui voulaient quoi ? Eh bien, détruire l'œuvre de Dieu. Paul était là pour bâtir, il était là pour planter des églises, il est là pour faire connaître eh bien, le beau nom de Jésus, et l'adversaire, lui, ne veut pas. Démétrius, eh bien, les ayant rassemblés, va leur dire ceci, Actes chapitre 19, verset 25, aux hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Hein, vous voyez, le commerce. Hein ? Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le constat est là. Il a fait de bonnes choses, il a prêché. Et ça ne plaît pas à l'adversaire. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Si c'est un dieu, il n'a pas besoin qu'on l'aide, nous humains, hein ? Croyez pas ? Eh oui. En tout cas, ces paroles étaient remplies de colère, ils se mirent à crier « Grande est la déesse de Diane !» ou des Éphésiens, pardon. En tout cas, toute la ville était dans la confusion. Alors Paul dit encore que c'est un bon combat et que c'est le bon combat de la foi, 1 Timothée 6, 12. Tous ceux qui croient réellement au Seigneur Jésus, qui sont ses disciples, hein, sont de fait concernés par le combat de la foi. Amen. Ce combat est dur jusqu'à quand ? Toute la vie, hein ? Toute la vie, hein ? 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. » C'est-à-dire, ça y est, je suis au bout. Et j'ai gardé la foi. Toute la vie, il nous faudra combattre. Amen. Toute la vie. Alors, sachez-le, eh bien, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une guerre, et comme toutes les guerres, eh bien, elle a ses règles. Et un des ennemis d'Israël, Rabshaké, roi d'Assyrie, va dire au roi Ézéchias, Ésaïe 36, verset 5, je prends ces simples mots-là, « Les mots ne suffisent pas. Il faut pour la guerre de la sagesse et de la force. » Eh oui. Alors pour la guerre spirituelle qui est engagée contre nous par l'adversaire, par ses armées également, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut de la sagesse. Il nous faut un conseil. Et pas n'importe quel conseil. Eh oui. Et puis il nous faut la force et des armes. Eh bien, c'est Dieu qui va donner tout ça. La sagesse, Dieu nous la donnera. Le conseil, le bon conseil, c'est lui qui va nous le donner. La force et les armes, c'est lui aussi qui nous les fournira, qui nous les donnera au moment voulu. L'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, « Nous ne combattons pas selon la chair. » Et puis au verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes parce qu'il y a là la puissance de Dieu, parce qu'il y a derrière eh bien, Dieu lui-même, hein, la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et des forteresses, il y en aura à renverser tout au long de notre vie. Amen. Mais je rappelle, ne vous effrayez pas. Nous sommes dans le camp du vainqueur. Il nous faut y rester, bien sûr. Alors, nous avons à soutenir un combat spirituel qui demande, on l'a dit, de la sagesse spirituelle, une force spirituelle, des armes spirituelles. Et il nous faut pour cela bien la sagesse d'en haut, la force du Seigneur, les armes de Dieu. Nos ennemis, il est dit que ce sont des esprits méchants. Ce sont des dominateurs puissants. Il ne faut pas le sous-estimer, l'adversaire. On l'appelle le malin. Hein ? L'apôtre Pierre écrit « Soyez donc sages Hein, 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et puis au chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc il est question ici de la sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu. Hein, comme le dit Jacques, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de dubiété et d'hypocrisie. Jacques chapitre 3, verset 17. Soyons aussi sobres. Sobres. Prenons garde, par exemple, à l'arrogance. Moi, il ne me fait pas peur. Eh oui, prenons garde également aux discours injurieux et provocants. Ne soyons pas prétentieux et suffisants. Je dis, c'est sérieux. Il y a des gens arrogants qui prononcent des paroles insensées. Et je prends simplement ce que dit Jude 8, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, jusqu'au verset 10, il dit « Ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, pas n'importe lequel, lorsqu'il contestait avec le diable et disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Soyons sages. Soyons aussi prudents. Amen. Il faut pour la guerre de la sagesse, de la force. Nous avons à lutter contre une armée d'esprits malfaisants. Tout d'abord, le diable, comme son nom l'indique, le calomniateur, c'est Satan, le méchant, un meurtrier, un menteur, un séducteur, un tentateur, l'accusateur, l'oppresseur, le voleur, un loup cruel, un lion rugissant et dévoreur, un serpent rusé, un dragon destructeur, et j'en passe, pour finir simplement, un rôdeur qui vient pour dérober, pour dévorer, pour tuer, pour détruire. Quand c'est beau, quand il se passe de belles choses, redoublez de prière. Soyez vigilants, soyez sages, ne jetez pas des perles aux pourceaux. Elles sont précieuses, ces perles. Et il ne faut savoir les garder. Alors, son armée, qui est à son image, elle est composée d'esprits impurs, méchants, qui tourmentent, qui oppressent, qui détruisent, qui lient, qui affligent les gens de toutes sortes de souffrances spirituelles, morales, physiques, et j'en passe. Alors, c'est contre toute cette puissance malfaisante que nous avons à combattre. Nous devons être bien sûr conscients et que dans cette lutte, il est indispensable de recevoir la force du Seigneur et de revêtir les armes que Dieu nous donne. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai de beaux biceps ou une grande tête bien remplie. Non, c'est un combat spirituel. C'est contre des esprits méchants, mauvais, etc. Alors, il est vrai qu'en découvrant l'identité, également l'agressivité et la puissance de nos ennemis, nous pourrions être effrayés. Et dire, eh bien, dis donc, un petit peu comme les envoyés d'Israël qui rencontrèrent les géants du pays de Canaan et qui, à leur vue, eh bien, se sentaient comme des sauterelles et eux, des géants. Et ils ont été découragés. Ils ont même découragé le peuple en revenant. Hein, ceux qui étaient absents, qui n'y étaient pas allés. Alors oui. Mais souvenons-nous que les hommes que Dieu a utilisés pour remporter ces combats, ce n'étaient pas des super-hommes ou des sur-hommes. Hein. Ils s'appuyaient sur le Seigneur. Voilà leur force. Ils allaient avec la force du Seigneur. Ils avaient des armes qui pouvaient paraître ridicules à leurs ennemis, mais c'était celles que le Seigneur leur donnait ou leur indiquait au moment précis. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas brandir. Voilà ce que tu vas dire. Pour prendre Jéricho, Josué a utilisé une stratégie qui a dû intriguer, bien sûr, ses ennemis, et une procession quotidienne pendant 7 jours autour de la ville. Il ne se passe rien. Ils font juste le tour. Et en plus, ils disent rien. Oh non, les injuries, ils ne répondent même pas. On se moque d'eux, et ils disent rien. Eh oui. Puis le septième jour, voilà, au son de la trompette, au son des cris de guerre des Israélites, qu'est-ce qui se passe? Cette forteresse, la muraille de Jéricho, les murailles de Jéricho sont tombées. Dieu leur avait dit que c'était comme ça, que ça allait se produire. Et Gédéon également, Gédéon va remporter la victoire contre une multitude avec seulement 300 hommes, des cruches, des lampres, et là encore, un cri de guerre. La victoire, elle est pour le peuple de Dieu. Amen. Le jeune David, il n'avait que son bâton, sa fronde, et il est allé chercher ses munitions là dans le torrent, cinq pierres, tout simplement, qu'il va choisir. Bien sûr, il va soigneusement les choisir, mais c'était des pierres, quoi. Je rappelle, c'était le jeune David. Seulement, il ne s'avançait pas n'importe comment devant ce géant. Il s'avançait au nom de l'Éternel. Et la victoire a été pour lui. Amen. L'arme la plus puissante que Jésus a utilisée pour vaincre l'adversaire et nous sauver, c'est la croix. La mort du seul innocent que la terre ait connu. Vous auriez misé là-dessus, vous? Vous l'avez fait maintenant, parce qu'il y a un recul derrière. Mais au départ, faire mourir le juste pour que des injustes vivent, pour que l'adversaire soit vaincu. Mais ça, c'est le plan de Dieu. Faire mourir l'innocent pour que des coupables vivent, soient pardonnés. Pierre et Jean également n'avaient pas beaucoup d'instructions au regard des chefs religieux qu'ils affrontaient, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est ça qui était important. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et la différence, elle est là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu m'est favorable parce que j'écoute et je vis sa parole, j'écoute son enseignement et je le mets en pratique, le Seigneur est avec moi. Regardez Paul. Il n'était pas très rassuré. Il arrive à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er. Mais il va s'appuyer sur la puissance de Dieu. Il dit pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Moi, quelque part, ça me rassure, ça me fait du bien de savoir que Paul, il a tremblé. Parce que des fois, il nous arrive, nous aussi, de venir là, et puis de ne pas être très fier. Seigneur, est-ce que je suis dans le coup? Est-ce que tu veux que j'aborde ce sujet? Est-ce que tu veux que je prêche de cette manière-là? Eh oui. Mais en tout cas, le Seigneur nous donne de la force. Amen. Alors, il faut remarquer que tous ceux qui ont combattu dans les armées de Dieu l'ont fait en s'appuyant sur le Seigneur, et j'y reviens, en se conformant à ses instructions, à son enseignement. Mais la victoire est là. C'est pas formidable? La victoire est là. C'est Dieu qui la donne, parce que lui, à la croix, Jésus a vaincu l'adversaire de nos âmes, Satan, il a vaincu son armée, et il l'a fait pour nous. Alléluia! Jésus a écrasé par sa mort sur la croix celui qui avait le pouvoir de la mort, parce que l'homme lui avait donné. Le diable, il croyait pouvoir tenir le monde entier sous son pouvoir, mais c'était sans compter sur le Seigneur. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il écrase la tête du serpent. Il l'a écrasé. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête. Nous sommes la postérité. Amen. Depuis que nous sommes nés de nouveau, pouvons écraser la tête du serpent. Hébreux 2, 15. Il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, le père des croyants, le père de la foi. Amen. C'est à nous qu'il vient justement porter secours. Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » C'est le seul moyen que nous ayons eu pour eh bien, être rachetés. Amen. Pour recevoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Et en poursuivant, il dit Dieu, au Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Et je conclue en disant qu'il y a quatre éléments dans l'issue de la victoire, justement dans le combat que nous avons amené. Le premier élément, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est répandu en sacrifice à la croix. Et ça, c'est notre victoire. C'est bien sûr sa victoire sur l'ennemi, mais c'est notre victoire. Parce que nous, couverts du sang de l'agneau, eh bien, nous pouvons aller, nous pouvons continuer d'avancer. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie de tous nos péchés. Il nous amène à la réconciliation avec Dieu. Il nous délivre du pouvoir de celui qui nous tenait asservis, tout simplement parce que nous étions pécheurs. Nous avons été lavés. Nous avons été purifiés. Deuxièmement, c'est le nom de Jésus que nous invoquons. Il faut invoquer le nom de Jésus. Pas à tort et à travers, mais quand il le faut. Amen. Et il proclame également, eh bien, nous proclamons comme cela sa souveraineté absolue. Alléluia. Et Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est donc justement une souveraineté universelle. Alléluia. Philippiens 2, verset 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Alléluia. Troisième, avant-dernier, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, troisième personne de la triunité de Dieu. Nous avons été loin du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. Il habite en nous. Et puis nous pouvons recevoir la plénitude de l'Esprit. La Pentecôte, baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Enfin, la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous proclamons également avec foi. C'est l'épée de l'Esprit. Amen. Armés comme cela, nous pouvons aller de l'avant. Eh oui, la résurrection de Jésus, c'est déjà la preuve éclatante de la victoire, sa victoire à lui. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Il a triomphé du tombeau. Et là, celui qui a le pouvoir de la mort n'a pas pu le lier, le garder. Il a perdu. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il domine sur toutes choses. Donc ne doute pas, Seigneur, toi, je ne sais pas si tu peux. Il le peut. À Dieu, rien n'est impossible. Mais pour que ça marche, il faut également que nous, nous croyons qu'il est capable de le faire. Amen. Nous sommes par la foi en Christ participants du triomphe du ressuscité. Nous avons la victoire en Jésus, notre Sauveur. Et Paul dit que dans l'Épître aux Romains, c'est le dernier verset, chapitre 8, verset 37, dans toutes ces choses qui peuvent nous arriver, dans toute l'adversité qui peut se dresser devant nous, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Tu es aimé, mais pas de n'importe qui. Tu es aimé du plus beau des fils de l'homme, Jésus. Tu es aimé de celui qui a triomphé. Tu es aimé de celui qui veut ton bonheur, qui veut que tu triomphes, qui ne veut pas que tu baisses les bras, mais que tu ailles de l'avant, en son nom. Ça, c'est la promesse qu'il t'a faite. Il dit, je marche avec toi. Demeure dans mes voies, je suis avec toi. Gloire à Dieu.